OK, on va commencer notre étude d'aujourd'hui qui va être dans le chapitre 9 d'Ésaïe, au verset 6 et 7. Non, c'est 5 et 6. Ça dépend des versions. Allez, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Ça, c'est une affaire que, dans les versions, je l'avais déjà trouvé une fois à Rouen. J'avais voulu savoir pourquoi que des versions, il y a comme une différence d'un verset. J'avais déjà trouvé, j'ai ça quelque part dans mes notes. Et c'est parce que des fois, tu étudies, puis dans la version anglaise, ils vont dire versets 6 et 7. Puis dans la version française, c'est 5 et 6. Alors, il faudrait que je corrige ma feuille, parce que moi, j'ai marqué 6 et 7, parce que j'ai préparé ça à partir d'un texte. D'un commentaire anglophone. Alors, ce qu'on veut, le titre que j'ai donné au sermon d'aujourd'hui et à celui de la semaine prochaine, parce qu'il va sûrement, ça va sûrement prendre deux semaines avant qu'on fasse le tour, parce que j'ai beaucoup de notes. On va y aller tranquillement, mais c'est tellement un beau texte, c'est tellement un texte riche. Alors, le titre, c'est « La révélation prophétique des noms du Messie Jésus-Christ ». Alors, on va regarder trois idées dans ces deux versets-là. Le Messie Jésus-Christ dans son humiliation. On va voir que dans le texte, il y a vraiment l'idée que Dieu qui s'incarne dans une chair d'homme, c'est une humiliation. Alors, l'aspect humiliation de Christ. Et après ça, on va avoir le Messie Jésus-Christ dans son exaltation. On va voir que les noms qui sont mentionnés là, qui le concernent, ça ne peut pas faire autrement qu'être des noms qui ne peuvent être attribués qu'à Dieu seul. Alors, on parle de naissance, donc l'humanité, l'incarnation, et en même temps, on parle de nom divin, que si tu mets les deux ensemble, ça ne peut pas être une autre personne que Jésus-Christ. Malgré que les Juifs, quand ils prennent, avec ce passage-là, comme Ésaïe 53, ils vont faire une multitude de pirouettes pour essayer de mentionner que ça avait un rapport avec le roi, je ne me souviens plus de son nom, qui viendrait. Dans le contexte, c'est impossible que ce soit que tu parles d'un roi humain avec des titres comme Père éternel. Ça ne tient pas debout, définitivement ça ne tient pas debout. Le livre d'Ésaïe, quand on l'étudie, c'est le livre qui est dans le Nouveau Testament qui est cité le plus souvent. Si vous prenez tout le Nouveau Testament, puis vous regardez quand ça fait référence à l'Ancien Testament, quel livre est le plus souvent? C'est pas le premier. Le premier, c'est les psaumes. Le deuxième, c'est vraiment Ésaïe. Ésaïe est cité 55 citations directes, où on utilise quelque chose qui a été dit dans Ésaïe et on le dit dans le Nouveau Testament. Donc, quelque part, Ésaïe, c'est un livre prophétique. Donc, à quelque part, si tu le lis dans le Nouveau Testament, c'est parce qu'on l'utilise dans le sens de l'accomplissement de ce qui était donné. Alors, la raison pourquoi que c'est le deuxième livre après les psaumes, comme de quoi il est le plus cité, c'est sûrement parce que ce livre prophétise beaucoup sur la venue future de Jésus-Christ. Comme par exemple, Ésaïe 53, quand vous l'avez déjà lu, ça parle des souffrances du Christ. Comment ça se fait que quand les apôtres ont vu Jésus-Christ venir et qu'ils ont vu que Jésus-Christ serait crucifié, personne, tout le monde, alors c'est rien que pour dire comment la culture peut venir fausser notre compréhension. Parce que la culture de l'époque, c'était que le Messie, c'était un libérateur. C'est vrai que c'est un libérateur. Mais eux, ils percevaient que Jésus-Christ était le Messie, un libérateur, mais uniquement dans le sens militaire du mot, dans le sens que les Juifs étaient dominés par les Romains à l'époque. Et ils croyaient que le Messie, c'était une personne qui arriverait, puis qui ferait le ménage. On se libère des Juifs. On se libère, c'est-à-dire des Romains. Alors, quelque part, il faut vraiment comprendre que c'est des choses spirituelles. Alors, la future venue de Jésus-Christ, Ésaïe 53, parlait que le Messie serait un Messie souffrant. Il y aurait aussi un aspect de son ministère qui serait souffrant, sa crucifixion et l'ensemble des choses qu'on a fait subir à Jésus-Christ. Comment ça se fait qu'il ne voyait plus? La culture, c'est fort. La culture, il s'attendait à ce que le Messie, c'était un libérateur militaire. Et vu que ce n'était pas ça, bien, il ne comprenait pas. Ça ne peut pas être le Messie, il ne nous libère pas. Et à quelque part, ça démontre une chose. Mais nous aussi, je pense aujourd'hui, on peut avoir des choses qui, culturellement, peuvent finir par nous influencer au point que les Écritures, on a de la misère à les interpréter des fois. Alors, le thème général du livre d'Ésaïe, si on le résume en deux petites phrases courtes, le livre, Ésaïe, moi, depuis que je suis chrétien, je ne l'ai jamais étudié en profondeur. Ça serait sûrement un livre à étudier en profondeur parce qu'il y a énormément, 66 chapitres. Donc, c'est le livre qui correspond au nombre de livres qu'il y a dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Il y a plein de choses très intéressantes à étudier le livre d'Ésaïe. Mais si on voudrait le résumer en deux seules phrases, on pourrait y arriver, mais ça serait un résumé un petit peu... Alors, c'est sûrement le jugement du péché. Quand vous allez lire Ésaïe d'un couvert à l'autre, de toutes les 66, vous allez voir que souvent, il y a des prophéties qui concernent « Oh, je vais juger l'Égypte, oh, je vais juger ici ». Il y a beaucoup de jugements du péché dans non seulement les nations environnantes d'Israël, mais Israël lui-même. Alors, le Seigneur est en train de leur dire « À cause de votre idolâtrie, moi, je vais aussi vous juger. » Alors ça, c'est une grosse partie du livre d'Ésaïe. Mais il y a aussi un autre thème qui est celui du salut par grâce, par la venue du Messie. Si on prendrait tout Ésaïe et on étudierait tout ce que le livre d'Ésaïe parle concernant le Messie, c'est énorme. C'est un livre qui parle beaucoup de Jésus-Christ. Alors le jugement, puis la venue du Messie. Alors, j'ai trouvé, comme j'avais dit tantôt, la prophétie est faite 700 ans avant l'arrivée de Jésus-Christ. Et j'avais un livre à la maison qui donnait, sûrement, si vous avez une chance de vous acheter ça, c'est en français. Ça s'appelle « Survol de l'Ancien Testament » en 3 volumes. Ce que ça fait, c'est que ça prend tous les livres de l'Ancien Testament, à partir de la Genèse, tous les livres, les 39 livres, et il présente les livres, donne un plan du livre, donne les principales idées. Et c'est vraiment une étude, je dirais, préparatoire à l'étude d'un livre. Disons que vous voulez étudier Ésaïe, prenez ce livre-là, vous en allez dans la section Ésaïe, il va peut-être avoir 25 à 30 pages qui vont parler d'Ésaïe, les principales idées. C'est très, 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 très bon. Je vous le dis, je vous le recommande très fortement. Alors, moi, j'ai trouvé une citation qui est dans ce livre-là, Survol de l'Ancien Testament, au volume 3, à la page 15, et l'auteur, c'est Garrett Crossley. G-A-R-E-T-H, Garrett, c'est un nom anglais. Crossley, C-R-O-S-S-L-E-Y. C'est une traduction d'un livre qui a été fait d'abord en anglais, qui a été traduit. Si vous voulez étudier la Bible au complet, il n'y a pas de meilleur outil que ça. C'est vraiment un super de bon outil qui vous présente dans les grandes lignes les différents livres de l'Ancien Testament. Très, très riche, très, très riche. Alors lui, par rapport au texte de ce matin, voici ce qu'il dit. Pour Ésaïe, alors il dit, « Pour comprendre le livre d'Ésaïe, il faut garder à l'esprit la situation politique complexe à laquelle Ésaïe fait face. » C'est une époque critique dans l'histoire du peuple de Dieu. L'Empire assyrien menace les frontières du nord-est. Les autorités du royaume de Juda envisagent deux solutions. Certains sont partisans d'une alliance avec l'Égypte, d'autres favorisent un rapprochement avec l'Assyrie. L'Égypte au sud, les autres au nord. ils pensaient qu'ils étaient pour être attaqués par la suite. Puis ils l'ont été, effectivement. Ils ont fini par être attaqués, vaincus et emmenés en déportation. Alors, Isaïe, lui, il privilégie. Alors, on voit le peuple d'Israël était dans un état spirituel très mauvais. Ça nous prépare à pourquoi le Seigneur amène la prophétie messianique. Autrement dit, il était sur le bord d'être attaqué par l'Assyrie, une nation très puissante qui faisait des ravages un petit peu partout. Et l'être humain, c'était des enfants de Dieu, au lieu de se fier sur Dieu, il pensait à régler le problème avec des solutions humaines. OK, on va négocier avec l'Assyrie. Puis il y en a d'autres qui disent, non, négocions pas avec l'Assyrie, négocions avec l'Égypte, qui était au sud. Alors le peuple était dans un mauvais état spirituel au lieu de se confier au Seigneur concernant la solution, concernant la guerre qui s'en venait. On voit que le peuple de Dieu avait deux pieds juste sur la terre. Il ne pensait pas qu'il y avait un Dieu qui était capable de les libérer de tout cela. Et le Seigneur l'avait démontré à maintes et maintes reprises dans l'histoire. Mais on voit leur état spirituel. Et c'est dans ce contexte-là ici que le Seigneur arrive avec Ésaïe 9. Il voit que le peuple est complètement mêlé, qu'ils veulent juste se fier à des solutions humaines. Et lui, il leur dit, voici un fils nous a dit. Il commence déjà à parler que la solution, elle n'est pas de ce monde, elle est en haut. Si le peuple de Dieu, collectivement, se serait tourné vers le Seigneur pour les protéger de l'invasion assyrienne, il n'aurait pas eu de problème. Quand tu te fies sur Dieu, comme peuple, mais je pense que ça nous parle à nous aussi aujourd'hui. Quand on a des problèmes, on est toujours porté à les régler avec des affaires humaines. Tandis qu'il faut les confier au Seigneur. C'est lui seul qui est capable de les régler. Alors, je continue. Il dit, on se souvient du prophète Isaïe, surtout pour ses prophéties messianiques, ses prédictions que lui a inspirées le Saint-Esprit à propos du Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alors, plus de 700 ans plus tard, un ange annonce à Marie l'arrivée du Fils de Dieu. Dans Luc 1, verset 31-33, il dit, « Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. » Quand vous étudiez le texte, là, juste les versets 5 et 6, on voit qu'il parle du trône de David. Et là qu'on va voir dans quel contexte qu'il faut comprendre ça. Alors, le trône de David, son père, il règnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Ça ressemble. On fait-tu un lien avec le texte de ce matin? On est dans le Nouveau Testament, dans Luc. Et alors, l'auteur, Garrett Crossley, il termine en disant, « Plane-t-il le moindre doute quant au lien intentionnel entre les paroles que l'ange prononce ici et la prophétie faite par Isaïe des siècles plus tôt. Alors, on a une prophétie qui est faite 700 ans dans la rue, et quand on arrive dans Luc, on utilise presque les mêmes mots en parlant de son nom, en parlant de qu'est-ce qu'il est venu faire sur cette terre. Alors, on va regarder le verset, la première idée qu'on a parlé tantôt, le Messie Jésus-Christ dans son humiliation. Dans le verset 6, là-dedans c'est 5, c'est ça qui devient mêlé un petit peu, ces histoires-là, mais en tout cas, le verset 5 dans la version seconde. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller du puissant éternel. » Alors, bien sûr, le verset « Un enfant nous est né », et on sait par le contexte du verset 5 et du verset 6 que ça utilise des noms divins. On parle de Dieu et on parle d'une naissance en même temps. Dieu ne naît pas. Il est éternel. Et là, l'auteur cherche à faire comprendre au peuple d'Israël que l'enfant qui va naître, il va être à la fois homme, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Donc, l'humiliation, le côté humiliation que Dieu est obligé pour venir sur la terre, de s'incarner dans une chair d'homme. Alors, faut penser que Jésus-Christ avait tous les attributs de la divinité. Là. Si vous les prenez, disons, en gros, on peut dire qu'il y en a 25, là. La sagesse, l'intelligence, la toute-puissance. Et mettez tout le reste là, au bout. Là. Tout ça, là, ça s'en venait dans une chair d'homme. Et les apôtres, tout le temps qu'ils ont vécu avec Jésus, lui ont vu faire une multitude de choses. Ça a pris, même à la fin, ils ne comprenaient pas encore. Ça a pris la résurrection, ça a pris les apparitions après, pour qu'ils finissent par saisir qui était le personnage qu'il y avait devant eux avec lequel ils ont vécu pendant 3 ans. Alors, on voit qu'ils n'ont pas allumé rapidement, comme on dit. Alors, là-dedans, l'idée du verset 5, c'est vraiment le Messie Jésus-Christ dans son humiliation. Alors, la première partie du verset 5 nous apprend plusieurs choses sur la venue future du Messie promis. Premièrement, ça dit « un enfant nous est né ». On parle du Messie, parce que c'est le contexte, le reste du verset qui nous l'apprend. On parle du Messie, puis on parle de naissance. Dieu, quelque part, va naître dans une chair d'homme. Quelque part, là, il y a des gens qui devaient se poser des questions. Alors, un enfant nous est né, et en plus, on parle d'un enfant. Dieu, qui s'incarne, il aurait pu s'incarner tout de suite dans une chair d'homme adulte. Il ne s'incarne pas dans une chair d'homme adulte. Il s'incarne dans un bébé. Y a-t-il quelque chose de plus délicat, de plus... faible, tu sais, de plus dépendant. Le Seigneur permet que le Dieu lui-même vient se mettre dans une chair d'homme. Et imaginez-vous, là, il y avait juste il y a eu quelques-uns qui ont saisi, là, il y a eu les mages et il y a les bergers à qui le Seigneur a fait comprendre que oui, c'est le Messie qui est arrivé, ou celui qu'on a parlé la semaine dernière, là, Siméon, quand il a eu le bébé dans les mains, mais lui, ça a été après sa naissance. Qui a pris conscience de qui était Jésus-Christ. Ça a pris énormément de temps avant que les disciples se rendent compte de qui Jésus-Christ était. Alors, un enfant nous est né. Si on regarde un dictionnaire de théologie, on regarde au mot « incarnation ». Ce mot-là n'est pas mentionné nulle part dans les Écritures. Cherchez le mot « incarnation » dans une concordante, vous ne le trouverez pas. « In », ça veut dire « dans »,« carnet », ça veut dire « dans la chair ». Dieu s'est manifesté dans la chair. Alors, une définition simple de l'incarnation serait acte par lequel le Fils de Dieu s'est volontairement revêtu d'un corps humain et de la nature humaine. Alors, le plan de salut conduisait inévitablement à l'incarnation, à la venue en chair de Dieu en Jésus-Christ. Il y a eu Genèse 3,15, puis qu'il a promis le Messie à venir. Il fallait qu'il soit un homme. Il fallait qu'il soit un homme sans péché. Alors, ça explique la question de la naissance virginale. Il fallait qu'il soit un homme, mais n'importe quel homme n'aurait pas fait l'affaire. Un bébé ordinaire n'aurait pas fait l'affaire. Il fallait que ce soit une personne qui vienne au monde sans tâche, sans la tâche originelle, sans le péché originel. Un être pur. Dans lequel Dieu s'incarnerait, et c'est cette personne-là qui accomplirait l'œuvre de rédemption. Et, je sais qu'il y en a qui ont déjà probablement entendu parler de ce théologien français-là qui s'appelle Vinet. Il dit « Il faut vivre sans religion, sans Dieu dans le monde et sans espérance ou recevoir le mystère de l'incarnation. » Si on ne reçoit pas le mystère de l'incarnation, il dit qu'il faut vivre sans religion, sans Dieu dans le monde et sans espérance. Si on croit au mystère de l'incarnation, pourquoi aujourd'hui les gens ne croient pas? Parce que c'est vrai que c'est dur à croire. Les gens font les gorges chaudes, ils vont dire, voyons donc, ouais, ça se peut qu'une femme ait un enfant puis qu'elle n'a pas eu de relation avec un homme. La naissance virginale, c'est ça, là. Elle n'avait pas eu de relation avec Joseph. C'est une naissance miraculeuse par l'opération du Saint-Esprit. On dit ça aux gens, les gens rient de toi aujourd'hui. Ils vont dire, oui, on donc, t'es pas dans le bon siècle, toi, là. Ils vont dire des affaires de même, mais pourtant, toute la richesse et de la profondeur de la théologie de Jésus-Christ est dans ces textes-là. Et si tu ne crois pas ça, mais une valeur, mais tu ne peux pas être sauvé si tu ne crois pas ça. Tu ne peux pas être sauvé si tu ne crois pas ça. La deuxième idée qui est présentée, l'enseignement qui nous est présenté sur le verset, la première partie du verset 5, c'est que le Messie est un don, un cadeau divin. Un fils nous est donné. Quelque chose que quelqu'un vient de voir et dit, « Bon, voici mon Cadillac, je te le donne. Voici les clés, voici tous les papiers, je te le donne. » Il ne te demandera pas, donne-moi en retour quelque chose. Il te le donne. Un fils nous est donné. Alors, c'est vraiment quelque chose, c'est un cadeau. On parlait de cadeau dans le temps des fêtes, alors Lucie parlait de cadeau. Là, le cadeau que le Seigneur nous fait, c'est d'une richesse, d'une ampleur qu'on ne peut même pas soupçonner. Des fois, quand on est chrétien, disons depuis 20, 25 ans, 30 ans, 35 ans et plus, là, on finit par, on dirait le langage théologique finit par se vider de son sens. On parle de choses tellement riches, tellement profondes, qu'on finit par s'habituer à ça, puis ça n'a plus tout le sens de merveilleux qu'il y a dans le texte. On le sait que c'est vrai, hein? Parce que des fois, on étudie un texte, et là, quelqu'un nous parle du texte qu'on avait déjà étudié, puis là, il nous fait voir quelque chose. Le Seigneur Jésus-Christ est beaucoup plus grand, plus glorieux, plus merveilleux, plus puissant que l'on puisse imaginer même. Ça dépasse notre capacité de compréhension. Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. Ça dit dans les Écritures qu'il soutient toute chose par sa parole puissante. S'il arrêtait de penser à la création du jour au lendemain, tout s'écroulerait. C'est sa parole qui tient que tout ce qui existe. Alors, quand on pense qu'on comprend la toute-puissance de Christ, là, on a du chemin à faire encore. On a tout du chemin à faire. Jésus-Christ est tellement grand. La raison, souvent, je me souviens d'avoir eu des discussions avec un autre étudiant dans le temps qu'on était à l'école biblique, il disait, le Seigneur aurait pu choisir un autre moyen pour sauver les hommes. Je n'étais pas tellement d'accord avec ça. Je me disais, s'il y avait un autre moyen, il aurait utilisé un autre moyen. Maintenant, les Écritures nous disent qu'il y a au moins 7 raisons pour lesquelles Jésus, Dieu est devenu, Jésus, qui était la deuxième personne de la Trinité, est devenu homme. Si je vous disais, nommez-les-moi. C'est là qu'on voit que, des fois, un fils nous est donné. C'était très certainement une des raisons. On va nommer les 7, la première, pour confirmer les promesses de Dieu. Dieu avait fait, dans Genèse 3,15, avait parlé qu'il serait le fils, la semence de la femme. Encore là, en choix, ça présentait une difficulté de compréhension. Alors, pour confirmer les promesses de Dieu qui avaient été faites dans Genèse 3,15. Deuxième raison pour laquelle il s'est incarné dans une chair d'homme, pour révéler le Père. Quand on dit « révéler », ça veut dire manifester, nous faire comprendre, nous faire découvrir le Père. C'est pas qu'il ne l'avait pas aucunement, là. Mais quand Christ est venu, la découverte du Père s'est beaucoup améliorée. Quand on prend Jean 14, versets 8 à 11, Philippe lui dit « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père, qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. » Il venait pour révéler le Père. Il dit, « Si vous ne croyez pas juste à cause de ce que je vous dis, au moins croyez ce que vous me voyez faire. Prends un mort, tu ressuscites un mort. » y a une tempête, tu dis calme-toi, Pascal. À quelque part, les œuvres auraient dû faire allumer quelque chose dans ta tête. Ça prend plus qu'un homme pour faire arriver ça. Troisième raison pour devenir un souverain sacrificateur fidèle. Là, ça serait, si on avait le temps, là, je vous dis qu'ils n'ont pas fait bien nécessairement avec ça, il faudrait revenir sur la notion de sacrificateur, puis de souverain sacrificateur. Quand ça rentrait dans le tabernacle, qui rentrait une fois par année, le souverain sacrificateur, pour quelle raison? Et si on reprendrait cette étude-là et on la mettrait en relation avec pourquoi il fallait que le Christ soit un souverain sacrificateur. Dans Hébreux, chapitre 4, verset 15, ça dit, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos infirmités, mais nous en avons un qui a été tenté en toutes choses par ressemblance, mais sans péché. » Autrement dit, il fallait que le souverain sacrificateur soit un homme qui a connu qu'est-ce que c'était, qui compatissait aux infirmités, qui a été tenté en toutes choses, mais qui était sans péché. Il fallait qu'il soit ça, le souverain sacrificateur, le nouveau souverain sacrificateur. Il y avait l'ancien souverain sacrificateur du système sacrificiel des Juifs, mais là, on parle du nouveau sacrificateur. Alors, il fallait qu'il soit un homme, il fallait qu'il soit sans péché. Et quelque part, il y a seulement Christ. Quatrième raison, pour ôter les péchés de ses élus. 1 Jean, chapitre 3, versets 5 et 6. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pèche point, quiconque pèche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Bien sûr, ici, il faut comprendre que ce qui est dit aussi dans les autres passages, quand il dit quiconque demeure en lui ne pèche point. Il faut regarder ce que le reste des Écritures, parce qu'on pourrait faire dire à ce texte-là quelque chose qu'il ne dit pas. Il ne pèche point dans le sens de pécher volontairement, d'une façon continuelle. Autrement dit, quelqu'un qui est né de nouveau ne reste pas dans le péché. C'est un peu autour de cette idée-là qu'il faut aller chercher le sens de ce texte-là. Cinquième raison pour détruire les œuvres du diable. Le diable avait fait un travail de tenter Ève et Adam. Ils ont tombé toutes les deux. Et on sait que à cause de ça, tous ceux qui sont nés d'hommes héritaient de la nature pécheresse. Et si tu hérites de la nature pécheresse, ben, tu pèches à tour de bras, comme on sait que tous les pécheurs sont. 1 Jean, chapitre 3, verset 8. Celui qui pèche est du diable, car le diable pèche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Donc, une autre cinquième raison. Sixième raison, pour nous donner l'exemple d'une vie sainte. Quand on regarde la vie de Jésus, c'est un modèle. En toutes choses, en tout temps, peu importe le moment de sa vie, il a toujours été un modèle parfait. Et on a besoin de modèles, les êtres humains. On a besoin de quelqu'un, de voir que quelqu'un a fait quelque chose à la perfection dans le but d'essayer de l'imiter. 1 Pierre 2, chapitre 21, verset 21, c'est-à-dire, et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Il nous laisse un exemple, mais le mot afin, ça veut dire dans le but. Dans le but. On regarde toute sa vie, tout ce qu'on voit, c'est la perfection dans le comportement. Alors, si on étudie sa vie, ça nous amène à vouloir le suivre. Et la septième raison pour préparer sa deuxième venue. Hébreux 9, verset 28. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Alors, les sept raisons, le Seigneur, dans sa sagesse absolue, réalisait ces sept conditions-là pour la venue du Messie. Donc, la deuxième idée, on avait vu que la première, c'était que Dieu lui-même s'incarnera dans une chair d'homme et naîtra. La deuxième, c'était que le Messie, Jésus-Christ, est un cadeau divin d'une ampleur et d'une richesse et d'une profondeur qu'on ne peut même pas soupçonner. Et la troisième, c'est que le Messie aura le règne et l'autorité suprême. Et la domination reposera sur son épaule. La domination, autrement dit, depuis le début, quand on regarde Genèse, quand le Seigneur a promis le Messie, tout le reste de l'histoire des Écritures, c'est tout un développement de l'accomplissement de ce que le Seigneur avait promis. Alors, c'est, quand on dit la domination, même si on ne voit pas nécessairement la domination comme étant réussie, terminée, on sait que ce n'est pas réussi, c'est réussi, mais ce n'est pas terminé. On voit qu'il y a encore du mal autour de nous, on voit qu'il y a plein de choses, mais le Seigneur contrôle et dirige toutes choses, malgré que nous, on ne le voit pas nécessairement. Il fait plein de choses qui ne sont pas nécessairement observables, comprises par les hommes. Alors, le gouvernement de la terre est délégué au Christ parce qu'il est le médiateur de l'alliance qu'on parle dans les Écritures. 1 Corinthiens 15, versets 24 à 28. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Et qui on parle? On parle des démons. On parle de... Et le verset 25, « Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. » Autrement dit, le Seigneur va mettre la domination sur ses pieds, et après, lui va se soumettre au Père, c'est comme il va la réconciliation avec le monde. OK, la deuxième idée qu'on va regarder, on va commencer à regarder les noms. On n'aura pas le temps de passer les cinq aujourd'hui, mais les noms qui sont donnés, que le Messie va porter. Ça dit, on l'appellera admirable, ou en anglais c'est wonderful, conseiller, Dieu puissant. Comment peut-on donner un nom à un être humain puis l'appeler Dieu puissant, si ce n'est pas Jésus-Christ? C'est impossible. Après ça, il y en a un autre après qui suit, qui pose un petit peu ses problèmes au point de vue de compréhension de la théologie, Père éternel, on se dit. Comment il peut être père et fils en même temps? Là, il faut essayer de comprendre ce qu'il veut dire par Père éternel. Et après, il se dit prince de la paix. Alors, on va y aller. J'aimerais ça vous faire prendre conscience de quelque chose dans les Écritures. On en a déjà parlé dans d'autres sermons. C'est la question de la signification du nom dans les Écritures. Un nom, moi, quand je suis venu au monde, pourquoi ils m'ont appelé Martial? Je n'en ai aucune idée. Pourquoi ils vous ont appelé de votre prénom? On n'en a à peu près aucune idée. Des fois, c'est plus du hasard que d'autres choses. Mais à l'époque biblique, ça ne marchait pas de même. Le nom que tu donnais à quelqu'un, ça révélait son essence. Son essence, ça veut dire, ça révélait son caractère, ça révélait sa personne, qui il était dans son ensemble, dans son esprit, dans son corps. C'était quelque chose qui parlait fort. Parce que quand on regarde souvent dans les Écritures, quand le nom d'Abraham a été changé, quand le nom de Saraï a été changé pour Sarah, ça avait une signification profonde. Un voulait dire père d'une multitude, l'autre voulait dire père élevé, l'autre voulait dire père d'une multitude. Mais quand on se met à réfléchir sur les noms que Dieu donne à des individus dans les Écritures, c'est toujours d'une grande profondeur. Mais là, il parle de son fils. Il parle du Messie. Il lui donne cinq noms. Ce n'est pas des noms ordinaires, c'est sûr. Mais je vais vous lire l'article qui est publié sous le mot « nom » dans un dictionnaire biblique. Le nouveau dictionnaire biblique révisé, augmenté, édition Emmaüs, 1992, page 913. Là, il parle du nom. Tu vas regarder dans le dictionnaire, tu regardes nom, N-O-M, puis regarde ce qu'ils disent en dessous. Là, il parle de son importance. À l'époque biblique, on attribue au nom une importance considérable. Il y a une relation directe entre le nom et la personne, la chose nommée. Le nom participe à quelque sorte à son essence pour qu'il lui, pour qu'il a pour but de révéler. Donc le nom a pour but de révéler l'essence de la personne. L'essence, ça veut dire ce qu'il est en soi, ce qu'il est en lui-même. Et quand vous regardez les cinq noms, c'est cinq noms divins. Donc il fallait que l'enfant qui était pour naître 700 ans plus tard soit à la fois un homme parce qu'il est né, et après ça les noms qu'il porte c'est des noms divins. Donc, on parle de Jésus-Christ, l'homme, Dieu, homme avec un H minuscule, trait d'union, Dieu avec un D majuscule. Il était l'homme-Dieu, les deux natures dans une seule personne. Il a pour but de, il exprime la personnalité à tel point que savoir le nom de quelqu'un, c'est le connaître intimement et même un sens. Et même en un sens, avoir prise sur lui. Quand tu connais le nom de quelqu'un, c'est comme tu as une prise sur lui. Dans la Bible, le nom doit exprimer la nature de celui qui le porte. Moi, je ne sais pas si Marcel, ça correspond à la nature de qui je suis. Je n'en ai aucune idée. En tout cas, il reste que aujourd'hui, on ne, n'accorde plus au nom l'importance qu'il avait à l'époque biblique. Alors ici, on va examiner les cinq noms qui seront donnés au Messie. Le premier, c'est admirable. Quand vous prenez la King James, ils vont utiliser le mot wonderful. Alors, on parle souvent quelque chose de wonderful. Wonder, c'est des merveilles. Alors, il y a une chose que je trouvais dans les commentaires, que je trouvais intéressante, c'est qu'on associait chaque nom à un besoin qu'on a, nous, comme élus, comme enfants de Dieu. Donc, le premier nom, admirable, ça correspond au besoin de la toute-suffisance. On peut trouver dans le Messie tout ce qui est suffisant à tous les niveaux. La toute-suffisance. Admirable. Quand on va voir, par exemple, dans Juges 13, verset 18, c'est la révélation qui est faite à Manoah, qui est le père de Samson. Dieu s'est révélé à lui. Ça dit, « L'ange de l'Éternel lui répondit, « Pourquoi me demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. » En anglais, « It is wonderful. » Alors, le nom de Dieu était « wonderful ». Maintenant, si on veut regarder le mot « admirable » ou le mot « merveilleux » qu'un M majuscule, qu'est-ce qu'on apprend de ce nom-là? Le Messie est admirable dans sa nature. Il est à la fois pleinement homme et pleinement Dieu. Et si on voudrait aller en profondeur, il faudrait prendre tous les attributs de Dieu et les voir dans la personne de Jésus-Christ. La toute-puissance, la sagesse, l'amour, la miséricorde, la patience, etc. Et voir que c'était tout ce que Dieu est, là, dans toutes ses facettes, était dans la personne de Christ. Donc, il était parfaitement homme, mais il était aussi parfaitement Dieu. Et il est admirable dans l'union de ces deux natures. Quand vous lisez les livres de théologie qui parlent de l'incarnation, tous les auteurs, les grands auteurs qui parlent de ce thème-là, ils en arrivent tous à dire que c'est quelque chose qui dépasse de beaucoup notre capacité de compréhension. Comment Dieu, avec tous ses attributs infinis, peut s'unir avec une chair d'homme? Et là, quelque part, les théologiens, ils sont en admiration parce qu'il est admirable. Il y a quelque chose dans cette notion-là de l'incarnation qui dépasse notre capacité de compréhension. 1 Timothée, chapitre 3, verset 16. Ça, c'est assez important. C'est dans la version Louis II, Ésaïe 55. « Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. » Alors, Dieu a été manifesté en chair. Le Nouveau Testament vient nous confirmer de ce qui avait été prophétisé ici concernant Jésus-Christ. Dieu qui se manifeste dans une chair d'homme. Dieu manifeste en chair. Donc, il est admirable dans sa nature. Homme-Dieu réuni dans une seule personne. Il est aussi admirable dans ses offices. Quels sont les trois offices de Jésus-Christ?
Prophète.
Il y a des savants dans l'assemblée. Roi. Le Messie, Dieu avait dit que le Messie serait un roi. Il avait dit qu'il serait un prophète. Non, dans le début de l'Épître aux Hébreux, Dieu dit, dans les temps passés, Dieu a parlé par les prophètes. Mais il dit, maintenant, Dieu parle directement. C'est comme si Dieu parlait directement à travers. Alors, c'était pas juste une prophétie, un prophète comme un autre prophète qu'il y avait dans l'Ancien Testament, même les plus grands. Il est en train de dire que le prophète Jésus-Christ est un prophète, le prophète, avec un L majuscule puis un P majuscule. Il parlait directement. C'est comme Dieu parlait à travers lui, beaucoup plus que les prophètes de l'Ancien Testament. Dans Hébreux, chapitre 1, qui va nous parler de l'office de prophète de Jésus-Christ, ça dit « Dieu, ayant autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé au Père par les prophètes, par les prophètes, tous les petits prophètes de l'Ancien Testament, les petits et les grands, nous a parlé en ces derniers jours par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par le moyen duquel il a fait les siècles. » Par le moyen duquel il a fait les siècles. On ne s'arrête pas des fois. Il faut s'arrêter quand on lit les Écritures, parce qu'il y a des choses tellement profondes qui sont dites. Par lequel, par Jésus, il a fait les siècles. Alors, ça impliquait son éternité, ça impliquait sa puissance. Verset 3, « Lequel, ça c'est important, lequel étant le resplendissement de sa gloire. » Il parle de Christ, puis il dit que Christ est le resplendissement de la gloire du Père. Après, et l'empreinte de sa substance. C'est comme Jésus-Christ, l'empreinte de sa substance, c'est l'identité du Père qui est révélée dans l'identité du Fils. C'est d'une profondeur qu'on... C'est vrai qu'on ne peut pas comprendre ça, là. Ça nous dépasse de beaucoup. Et portant l'empreinte de sa substance, et portant toute chose par la parole de sa puissance, après avoir fait par soi-même la purification de nos péchés, s'est assis à la droite de la majesté dans les hauts lieux, étant devenu d'autant supérieur aux anges que le nom dont il a hérité est bien différent du leur, car auquel des anges a-t-il jamais dit, « Tu es mon fils, toi, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. » Ou encore, « Moi, je lui serai pour père, et lui, il sera pour fils. » Mais pour le temps où il introduira de nouveau le premier-né sur la terre, il dit, « Et que tous les anges de Dieu l'adorent. » Pour que des anges adorent une personne, qui était le Messie, être humain. Il fallait qu'il soit l'homme-Dieu. Il fallait qu'il soit la divinité en lui, sinon ça aurait été un blasphème de l'adorer. Première chose, donc, le prophète. Deuxièmement, le sacrificateur. Là, je vous dis, ça serait très intéressant de retourner dans le livre de l'Exode et tout étudier la partie du tabernacle où on parle que le souverain sacrificateur, quel était le rôle qui... Quand est-ce qu'il faisait ça? Pourquoi il faisait ça? Et quels étaient les résultats de tout cela? Il rentrait une fois par année dans le Saint des Saints, c'était le seul qui pouvait le faire. Et le but était que faire pardonner les péchés du peuple. Et on sait que Jésus était le souverain sacrificateur. On ne rentrera pas là-dedans maintenant parce qu'il faut aller voir dans Hébreux, il faut aller voir dans Exode. Mais en tout cas, l'idée, c'est que les Écritures disaient qu'il fallait que Jésus soit sacrificateur. Alors, Jésus-Christ est le sacrifice parfait. Il est de bonne odeur et il satisfait pour nos péchés. Christ est aussi, parce que l'office de souverain sacrificateur, c'est qu'il rentrait là et il obtenait le pardon des péchés. Et après, il sortait. Mais il sortait pourquoi? Il sortait pour bénir le peuple. Et c'est un autre aspect du Seigneur qu'il est au ciel et qu'il continue à nous bénir, même après que l'œuvre est terminée. Il est intercesseur, il intercède pour nous. Il offre à Dieu. nos prières. Autrement dit, les Écritures nous disent que nos prières, là, pour Dieu, là, ça doit faire pitié, pas à peu près. Pourquoi? Parce que ça dit que le Saint-Esprit a besoin de les présenter à Dieu. En voulant dire, probablement, ce qu'ils veulent dire, là, c'est ça. Parce que on doit dire tellement de choses dans nos prières qui ne sont pas dignes d'excellentes prières, que le Saint-Esprit a besoin de les compléter auprès de Dieu. C'est quelque chose de magnifique de penser à ça. Hein. Seigneur, prend nos faibles prières et en fait des prières acceptables au Dieu de Dieu. Donc, il offre nos prières, il offre nos actions aussi. On fait des actions, mais on sait que toutes les bonnes actions qu'on fait sont teintées de péché. Mais quand le Saint-Esprit offre nos actions à Dieu, c'est juste l'aspect acceptable. Mais ils deviennent acceptables pourquoi? À cause de la personne de Jésus-Christ. Et l'Esprit doit... Oui, il a fait une bonne action, il y a des péchés dedans, mais je te l'offre pareil, parce que Christ, lui, faisait tout ce qu'il faisait parfaitement. Nos services, nos louanges à Dieu, même quand on loue Dieu, on n'est pas toujours à la hauteur, comme on dit. Et Christ nous bénit parfaitement. Alors, Romains 8, verset 32-34 dit, « Lui, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Donc Dieu est à la droite du Père et il intercède pour nous. Ce qu'on dit, ce qu'on prie, nos actions et nos louanges, nos prières et tout cela. Le Saint-Esprit continue à les améliorer en les présentant, en rappelant très, très, très certainement au Père le côté merveilleux de Jésus-Christ dans tout cela. Et troisième, donc on a dit prophète, le prophète. On a parlé de le sacrificateur, il y aurait beaucoup de choses à dire en plus de cela. Mais il avait dit aussi qu'il serait un roi. Parce que quand on parle, dans le verset, ils disent il aura le trône de David. Alors, dans Luc 1, versets 30 à 33, ça dit, « L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant mes yeux. » Et voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. On a lu ça tantôt dans Ésaïe, mais on est rendu dans Luc. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Alors, si on prendrait le verset 6... on va voir que non seulement il nomme ses cinq noms, mais après il dit de quelle sorte de règne qu'il va établir sa terre. Et ce qu'il y a de plus merveilleux, ça je l'ai découvert en préparant, je vous le dis tout de suite, mais on va le répéter la semaine prochaine. Regardez la fin du verset 6, la dernière phrase. Et là il parle de toutes ces choses-là, il dit « Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. » Il est en train de te dire que tout cela, c'est entre mes mains et vous pouvez être assurés que je vais le rendre jusqu'au bout, jusqu'au parfait accomplissement. Il dit, moi je trouve ça tellement beau, là. C'est comme la signature divine. Il fait une prophétie, puis là c'est comme s'il signe. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. On va revenir aussi sur l'expression l'Éternel des armées. Des fois, on pense qu'on comprend ce que c'est. On n'est pas toujours sûr. C'est bon de parfois d'aller un petit peu plus en profondeur. C'est l'Éternel, Jéhovah Sabaoth, comme on dit dans l'hébreu. Là. Puis quand on va fouiller un petit peu la signification de l'Éternel des armées, voilà ce que fera le zèle. Autrement dit, le Seigneur va accomplir ce qu'il promet avec un grand zèle, avec une grande ardeur. Et il dit ce que fera l'Éternel des armées. Pourquoi il utilise le nom l'Éternel des armées pour dire qu'il va accomplir ça? on va le voir la semaine prochaine. OK, ça fait qu'on va arrêter ça pour aujourd'hui.